Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Bien contente de vous accompagner pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le bien-être de nos enfants, de nos adolescents ici au Canada et au Québec, dans un pays, et j'ai pas besoin de vous le rappeler, qui est considéré comme riche, comme favorisé. Je parle du bilan UNICEF Innocenti 13, l'équité pour les enfants, qui a été lancé tout récemment et qui a comme fonction de mesurer les écarts en matière d'inégalité du bien-être chez l'enfant dans les pays les plus riches. Et ce, dans quatre aspects différents, la santé, l'éducation, le revenu et la satisfaction à l'égard de la vie. Et ben, probablement que vous vous demandez, ben, nous au Canada, on est classé où dans ce palmarès? Ben, j'ai le malheur de vous annoncer qu'on est loin d'être des champions. Enfin, on est classé 26e sur 35 pays. Le Canada est l'une des sociétés les plus inégales pour les enfants et les jeunes. Donc, on est loin de gagner une médaille en ce sens, mais il est possible de s'améliorer. J'en parlerai tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Carlin McGuinty, elle directrice adjointe des politiques et programmes internationaux à UNICEF Canada. Également, parmi ces enfants dits plus vulnérables au Canada et au Québec, il y a ces jeunes issus des communautés autochtones. Comment on peut arriver à les atteindre? Comment on peut arriver à les connaître? C'est très important pour pouvoir les aider et à les rejoindre. Pour tenter de parler de saines habitudes de vie, eh bien, en 2010, le chirurgien Inou Stanley Volant a eu l'idée d'entreprendre une marche de 6000 km à travers les différentes communautés autochtones de l'Est du Canada. À ce jour, il a parcouru près de 5400 km de marche. Il a pu rejoindre de cette façon 11 000 jeunes autochtones afin de les sensibiliser, oui, aux saines habitudes de vie, mais également à la persévérance scolaire et à l'importance de leur identité culturelle. Aujourd'hui, Dr. Volant effectuait une marche en boucle de 2 km sur les plaines d'Abraham. On le joint de ce côté. Docteur Volant, bonjour.
Bonjour. En fait, la boucle est complétée, mais je suis en train de faire les 16 km entre Québec et Wendake.
Ah, vous êtes en pleine marche, Docteur Volant.
Oui, c'est frais, puis j'ai un peu froid aux doigts, mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous parler quand même.
Donc, pour être bien certaine de comprendre, c'était ce matin, je pense, les plaines d'Abraham, c'est bien ça?
Oui, on a commencé à 9h pour permettre à des gens de se joindre à nous. Parce que la marche entre Wendake et Québec, c'était plus difficile au niveau logistique de pouvoir avoir 100, 200, 300 personnes avec nous.
Ouais.
Et ça permettait à des gens de pouvoir venir juste nous supporter un kilomètre, deux kilomètres, où il y a près 8, 9, 10 personnes qui sont venues en plus de notre courte marche de 17 personnes jusqu'à Wendake.
Cette marche-là, vous l'avez débutée en 2010, Dr. Volant, et à quel moment, ça fait quelques jours, quelques semaines, je pense, que vous avez décidé de la reprendre?
C'était déjà prévu depuis plusieurs mois, puis c'était prévu pour la fin mai, mais... J'ai un événement heureux qui arrive le 27 mai, la naissance de ma petite Béatrice. Donc, on a décidé de l'avancer d'un mois, mais c'était déjà prévu depuis le mois de décembre. Donc, c'est pas une coïncidence. Et on a décidé de marcher de Kakuna jusqu'à Wendake, 250 kilomètres, pour permettre encore de pouvoir redonner le message aux jeunes de persévérer, de jamais abandonner leur rêve. Et développer des saines habitudes de vie et aussi un message au gouvernement puis aussi aux communautés, l'importance de favoriser les conditions idéales pour permettre aux jeunes de pouvoir développer leur plein potentiel et leur talent.
Oui. Cette marche, elle se nomme Inou Meshkenou. Est-ce que je le prononce comme il faut, Dr. Volant?
Exactement. Meshkenou veut dire chemin. Inou, être humain.
Oui. Et la jeunesse s'est passée en France sur le chemin de Compostelle.
Oui, c'est un vision, un rêve que j'ai fait la dernière journée de Compostelle en 2008. Et quand je suis revenu au Canada, bon, j'ai dit peut-être que je pourrais faire ça quand j'aurai 65, 70 ans. Mais à force de voir des rapports sur le taux de suicide, le taux de diabète, le taux de détresse psychologique des jeunes et des moins jeunes, le taux de violence dans les communautés, le taux de criminalité, j'ai dit, bon, je pense qu'il est... C'est des grands âges qu'on le fasse maintenant.
Oui.
Et d'attendre dans 25 ans, peut-être des milliers d'enfants qui auront entendu mon message seraient déjà décédés, morts ou dans des situations à risque. Puis, donc, excusez-moi, il y a des cyclistes qui passent à côté de nous, qui sont pas très contents qu'on marche. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre cette marche-là en 2010, même si ce n'était pas vraiment un temps idéal pour le faire, parce que je travaille, je suis chirurgien, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités professionnelles et académiques. Et j'ai entrepris parce que c'était 40 ans de le faire. Et depuis ce temps-là, j'ai marché 5400 km.
Donc, 2010, on est en 2016, mais en même temps, il y a quelques semaines, on entendait parler de cette vague de suicide, tentative de suicide du côté d'Attawa-Piscate, qui est en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Est-ce que pour vous, cette nouvelle, ce constat, c'est un échec ou plutôt une motivation à continuer à transmettre votre message?
Je pense que c'est une motivation supplémentaire pour qu'on puisse propager le message. Et aussi, essayer de convaincre les gens d'être des ambassadeurs de ce message-là. Je ne peux pas seul changer les choses, mais si tout le monde se convainc qu'on peut donner de l'espoir en donnant les moyens aux jeunes de pouvoir se développer leur talent, leur potentiel. Et actuellement, nous avons la population autochtone, la moitié de la population autochtone a moins de 20 ans. Mm-hmm. Donc, c'est une richesse démographique. Si on peut leur donner les outils pour se développer, ou ça peut devenir une bombe démographique, ces jeunes-là pourraient juste augmenter le nombre de cités sociaux, de personnes qui tombent dans la victimisation, le nombre de toxicomanes, le nombre de décrochages scolaires. Donc, il est temps d'agir, et si on ne le fait pas de façon concertée avec les gens des communautés, les leaders des communautés, évidemment, on va se ramasser avec une problématique beaucoup plus importante dans 10-15 ans.
Oui. Il y a un volet très important à votre marge, je trouve, c'est ce volet de l'identité culturelle. Comment on fait pour sensibiliser les jeunes autochtones ou peut-être les sensibiliser, leur parler de leur identité culturelle et de leur montrer à quel point c'est important de sentir ce lien d'appartenance?
Bien, je leur parle beaucoup de mon expérience personnelle parce que j'ai grandi... avec mes grands-parents. J'ai été adopté quand j'étais jeune et j'ai vécu dans la forêt avec mes grands-parents de façon très traditionnelle. Je ne parlais pas français alors j'avais 6 ans ou 7 ans. Mm-hmm. Et j'habitais plus dans une tente que dans une maison avant j'étais 5 ans. Et je leur donne cette image-là, ce message-là que je suis fier d'être autochtone et c'est ça qui m'a permis de franchir les obstacles dans ma vie.
Oui.
Et l'autre chose aussi, c'est que nos grands-parents, je me rends compte à travers mes marches en hiver, au printemps ou à l'été ou à l'automne, ce qu'ils ont traversé le GT de Chefferville à Coudjouac l'hiver passé avec une vingtaine de personnes, avec un traîneau. Et je peux dire, ce que je faisais, c'était peut-être 15% de ce que mes ancêtres faisaient avant.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très, très dur malgré que je sois un athlète. Et donc, j'ai encore plus d'admiration, de fierté pour ces gens-là qui étaient des gens courageux, braves, résilients. Et leur courage nous a permis, la détermination, le courage nous a permis d'être ici encore aujourd'hui. Et je dis ça aux jeunes, soyez fiers de vos grands-parents et prenez exemple du courage qu'ils avaient pour franchir les étapes de vos vies.
Oui. Il y a énormément de détresse dans les communautés autochtones, bon, notamment chez les jeunes, docteur Volant. Comment on peut l'expliquer, cette détresse-là? Vous, vous en avez rencontré des jeunes, des gens, des familles lors de vos marches dans les communautés autochtones. Pour nous, parfois, ça peut être difficile à saisir et j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu un portrait de cette détresse-là.
Bien, selon les dernières statistiques qui ont été publiées par la Commission de la santé des Premières Nations de Québec-Labrador, il y a de 20 à 30 % des adultes autochtones qui auraient pensé à mettre fin à leur jour. Ouais. Donc, c'est quatre fois plus élevé que la population canadienne. Et chez les tentatives de suicide qui ont réussi, le taux est de 6 à 7 fois plus élevé en milieu autochtone et de 15 à 20 fois plus élevé chez les Inuits du Grand Nord. Donc, c'est un phénomène qui perdure depuis plusieurs années. Mm. En fait, les statistiques de cette année sont identiques à celles qu'il y a 10 ans. Donc, il y a une variation, mais il n'y a pas de diminution de ce phénomène-là. Et on sait que le facteur protecteur, c'est essentiellement la réappropriation de l'aspect culturel, réappropriation de l'identité culturelle et deuxièmement, l'éducation. Donc, faut vraiment, et ça, c'est des études de psychologues. Je me rappelle plus du nom de l'étude qui est publiée il y a une dizaine d'années, mais qui démontrait que les deux facteurs principaux de protection étaient l'identité culturelle et l'éducation.
Oui.
Et je pense qu'il faut investir nos énergies, pas juste l'argent, mais nos énergies au niveau de la réappropriation de l'identité culturelle et aussi sur l'éducation, pour donner les compétences, les outils à nos jeunes de pouvoir affronter le monde et s'enrichir.
Oui. Oui. Vous êtes le premier, et je pense que c'est important de le dire, le premier autochtone québécois à finir ses études en chirurgie. Vous avez été diplômé en 1994. Avez-vous l'impression que cette éducation auquel vous avez eu accès vous a sauvé un petit peu, docteur Volant?
Bien, c'est ça. Ça m'a donné des outils pour affronter le monde moderne. Mais l'éducation que j'ai eue de mes grands-parents m'a beaucoup aidé. Puis je me sers souvent les histoires de mes grands-parents pour me redonner de la fierté et du courage.
Ouais.
Et ça me permet de franchir les obstacles plus facilement. Ça me permet de parler aux jeunes autochtones en disant « Rappelez-vous de vos ancêtres. Vos ancêtres, c'est des gens courageux. Puis prenez exemple sur eux. » Et de vivre, survivre et de vivre, c'est une façon d'honorer leur mémoire. Parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont souffert pour nous. Ils ont eu faim pour nous. Et ils ont transmis la richesse de notre culture, de notre langue, malgré les pensionnats, malgré les colonisations, malgré la loi sur les Indiens, qui est une loi raciste, ethnocide, ils sont parvenus à nous transmettre cette culture-là. Et on doit les honorer en poursuivant cette fierté-là de la culture et la communiquer à nos enfants et aussi au restant du monde, parce que nous pouvons enrichir le peuple non autochtone de nos coutumes, de nos langues. Et je pense que nos jeunes pourront être un jour l'ambassadeur de cette fierté-là.
Oui. En terminant, Dr Volant, est-ce que les leaders autochtones et, bon, le gouvernement Trudeau est sensible à votre cause? Est-ce que vous sentez un appui?
Le gouvernement Trudeau, je pense que semble investir de façon significative, peut-être insuffisante encore à mon goût au niveau des autochtones, le 8 milliards sur 5 ans, peinerait à peine à couvrir le manque au niveau de l'éducation. Donc, juste un aspect de la santé des Premières Nations, il manque quand même 60% des communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau. Il manque 30 000 maisons dans les communautés autochtones. Il y en a 60% aussi qui sont extrêmement contaminées par des moisissures et d'autres contaminants. Il y a tous les problèmes de leviers socio-économiques qui sont déficients. Donc, il y a encore beaucoup d'investissements à faire parce que c'est beau investir sur l'éducation, mais il faut aussi investir sur les déterminants de la santé, avoir de l'eau, avoir une maison, avoir un toit et aussi développer une sécurité dans nos communautés. Il y a un rôle important de nos chefs, de nos communautés aussi, dans ce processus-là. Donc, ce sera pas juste l'extérieur qui devra nous aider, mais il faut que ça vienne à l'intérieur avec de l'aide des différents paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux.
Oui. Pour encadrer nos jeunes et savoir les inspirer. Et comme vous le disiez si bien, d'abord et avant tout, à l'éducation. Maintenant, pour appuyer votre marche, on peut aller à inou-meshkenou.com. On peut vous suivre, à savoir vous êtes rendu où, vous suivre en temps réel. Docteur Volant, cette marche, vous prévoyez la terminer quand?
Cette marche-ci, je la termine dans 2,5 kilomètres.
Ah, alors, c'est tout bientôt.
C'est dans à peu près 30 minutes. Puis, rencontre avec les étudiants de l'école. Mm-hmm. Puis, je reprendrai la marche l'année prochaine pour finir sur Montréal.
Oui, OK.
Donc, j'invite les gens de Montréal de venir marcher avec nous nombreux l'été prochain. Une date terminée avec le maire Coderre, en effet.
Mm-hmm.
Puis, ils peuvent aussi nous encourager sur nos sites, sur des réseaux sociaux. Et on peut aussi donner au niveau d'Inou-Meshkenou à travers la Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi pour permettre d'organiser ces marches-là et de soutenir les gens qui viennent marcher avec nous. Il y a des jeunes avec qui j'ai marché, dont la vie a changé, qui sont retournés à l'école, qui ont abandonné la drogue, l'alcool, des gens qui ont préféré la vie à la mort, des gens qui sont devenus maintenant des leaders dans leur communauté. Donc, il y a des effets positifs et j'espère faire beaucoup d'émules dans les prochaines années.
Oui. Est-ce que j'entends, Dr. Volant, vous avez espoir en l'avenir, plus que de l'inquiétude ou de l'amertume? C'est ce que j'entends.
J'ai beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il faut agir maintenant parce qu'il est plus moins une.
Oui.
Il est minuit plus une, mais c'est encore le temps d'agir. Puis, avec l'aide des communautés, des leaders, les différents paliers gouvernements provinciaux, fédéraux, on pourra trouver une solution pour que tous les jeunes puissent se développer pleinement et contribuer à l'avenir de notre pays, à l'avenir de nos enfants. J'en suis très, très, très positif. Je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, mais j'espère que mes enfants, mes petits-enfants le verront.
Que la petite Béatrice pourra le voir, Dr. Volant. En tout cas, vous en êtes tout un leader. Moi, j'ai entendu dire que quand vous arrivez dans les communautés autochtones, vous êtes accueilli comme une rock star, Dr. Stanley Volant. Je rappelle, vous êtes chirurgien, également instigateur de cette marche chez nous, mais ce qui est nous, professeur et conférencier. On vous laisse aller vous réchauffer les doigts, Dr. Volant, et une très bonne marche à vous et à ceux qui vous accompagnent.
Et merci beaucoup, puis bonne journée. Et en Inou, on dit Tchenskemetin, c'est-à-dire je te donne une terre à manger ou merci, tout simplement. Et Niant, au revoir.
Au revoir, Dr. Volant.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Carly McGuinty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe des politiques et programmes internationaux à UNICEF Canada et on vous joint du côté de Toronto, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Caroline, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce rapport de l'UNICEF que l'on nomme Bilan Innocenti 13, Équité pour les enfants. Et ce que l'on retient d'abord de ce rapport, c'est que le Canada est l'une des sociétés les plus inégales pour les enfants et les jeunes. Donc, en premier lieu, c'est quelque chose d'assez bouleversant, comme on dit, ça fesse, sachant qu'ici au Canada, on est un pays favorisé, un pays riche. En premier lieu, en quoi ça consiste, ce bilan de l'UNICEF lancé tout récemment?
Donc, c'est vrai, on a beaucoup de travail à faire au Canada. Et ce que l'UNICEF a fait, c'est qu'il y a 3 ans, on a mesuré le bien-être général des enfants qui vivent dans les pays riches comme le Canada. Et donc, quand on a mesuré ce bien-être général, on était situé au milieu. On était 17e sur 29. Mm-hmm. Puis là, on a approfondi cette recherche et on a comparé, pas le bien-être général, mais on a comparé les enfants qui sont au bas de l'échelle sociale comparé à ceux qui vivent la majorité, ceux qui sont au milieu de l'échelle, qui vit les conditions normales de croissance. Et quand on a pris cette mesure-là, en se comparant aux autres pays riches, on a vu qu'on tire de l'arrière et qu'on est situé dans le tiers inférieur quand on se compare aux autres pays riches. Et puis, c'est troublant et on est ici pour en parler et pour aussi pour, proposer les solutions.
Oui, oui, parce que bon, mm-hmm. une fois le constat fait, c'est le fun de regarder en avant et de voir ce que l'on peut faire. Pour mm-hmm. ce rapport, vous vous êtes basé sur 4 aspects, Carlene.
C'est ça. Donc, on a comparé parmi les pays riches comment les enfants vivent les inégalités en matière de santé, en matière d'éducation, de revenus familiales et de satisfaction à l'égard de la vie. Donc, on a regardé les données des sondages dans plus de 30 pays et pour voir comment on compare.
Ouais. Et ce que l'on constate, c'est que avec l'aspect éducation, là, mm-hmm. le Canada, on s'en sort mieux avec cet aspect-là.
Oui, c'est vrai. En ce qui a trait à l'éducation, je pense qu'on a bien investi au niveau, si on compare entre les provinces, je pense qu'on a assez bien investi. Il y a encore des différences entre les garçons et les filles. Par exemple, les garçons réussissent moins bien que les filles. Mais en général, on se situe très bien. Mais dans d'autres domaines, par exemple, dans la santé, surtout la santé mentale et la satisfaction à l'égard de la vie, on sort moins bien. Et on est très préoccupé ouais. par ces données parce qu'on sait qu'il y a un quart des enfants canadiens, donc 25 % des enfants canadiens, qui mènent une vie quotidienne en se sentant en mauvaise santé physique et mentale. Mmh. Et ça, je pense que ça devrait nous préoccuper comme une nation. Et aussi, quand on regarde les statistiques sur la satisfaction à l'égard de la vie, on est situé dans le tiers inférieur. Ça, c'est un résultat faible. Plusieurs de nos enfants canadiens ne se sentent pas bien, se sentent pas satisfaits de leur vie de façon quotidienne. Donc, on a du travail à faire. Et on voit aussi qu'il y a des différences entre les garçons et les filles. Les filles adolescentes se sentent moins bien au niveau mental que les garçons à l'âge de l'adolescence.
Mm-hmm. Tout à l'heure, Carlene, je discutais avec le Dr Stanley Volant, un chirurgien ici au Québec qui est d'origine Inoue et qui milite pour rencontrer les jeunes ici des communautés autochtones pour parler de habitudes de vie, de persévérance scolaire. Le rapport démontre aussi et témoigne que les enfants autochtones sont encore les plus défavorisés et les plus vulnérables.
Oui, ils sont parmi les plus vulnérables, ils sont parmi les plus défavorisés, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi d'autres enfants à travers notre pays qui réussissent moins bien. C'est des enfants qui ont une vie plus difficile, ils ont une moins bonne santé, de moins bons résultats scolaires, davantage de comportements à risque comme l'intimidation et des attentes et des aspirations plus limitées parce que on se soucie moins d'eux. Donc, ça peut être des enfants de familles qui viennent juste de se joindre au Canada. Ça peut être des enfants qui vivent dans des situations où les parents travaillent peut-être 2 emplois chaque. Ils passent moins de temps avec leurs enfants. Peut-être que c'est des enfants où ils font face à l'intimidation de façon quotidienne. Donc, ce ne sont pas juste seulement les enfants autochtones. Il y en a plusieurs parmi le pays qui mm-hmm. souffrent.
Maintenant, Carlene, comment on peut expliquer ce recul-là du Canada en matière d'inégalité pour nos enfants?
Il y a 2 facteurs, je pense, importants. Donc, dans des domaines, c'était assez stable et dans d'autres domaines, on a vu un recul. Et je pense que quand on regarde la comparaison entre nous et les pays riches, on a fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, premièrement, avec les inégalités globales de revenus, ça a augmenté dans les 10 dernières années, mais la pauvreté de l'enfant a persisté. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé à travers le pays. Mais aussi, on n'a pas investi autant que les autres pays pour stimuler les revenus familiaux et offrir suffisamment de services à l'enfance de qualité, comme des services de garde, comme des programmes de développement du jeune enfant, ce qu'on a vu se faire dans d'autres pays riches. Donc, parce qu'on n'a pas fait cet investissement-là, on a vu un recul.
Donc, une façon de réduire les écarts serait de meilleurs investissements et des programmes mis de l'avant.
Oui, absolument. On doit investir plus tôt et on doit investir davantage. Les inégalités en matière du bien-être de l'enfant s'accumulent à travers la vie d'un enfant.
Ouais.
Et par le temps que cet enfant vulnérable fait sa transition à la vie adulte, c'est très difficile pour eux. Ils ont moins de chances d'obtenir un diplôme d'études secondaires, plus de difficultés pour trouver du travail et de contribuer de façon positive à la société. On va voir ce cycle se répéter. Donc, c'est pour cela qu'on doit investir tôt.
Oui. De façon plus concrète, Carline, est-ce que l'UNICEF, et en terminant, il nous reste une minute et des poussières, est-ce que l'UNICEF a des recommandations claires et concrètes envers le gouvernement Trudeau?
Oui. Donc, premièrement, on est très content qu'ils ont passé la prestation pour les enfants. Donc ça va aider les revenus des familles, surtout des familles à faible revenu. Donc ça, c'est une très bonne chose. On veut que ça continue. Au niveau de la santé, on doit faire plus pour assurer que les enfants et les familles les plus vulnérables ont facilement accès à des aliments sains et abordables. Aussi, on a besoin d'une stratégie nationale de la petite enfance. Il semble que le gouvernement Trudeau va s'y mettre et ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Et quand ça traite la satisfaction à l'égard de la vie, il faut faire mieux. On doit aussi mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos enfants. On a besoin de meilleures données et d'un meilleur suivi.
Carline,
parmi les choses qu'on doit avoir mis en place.
Merci beaucoup, Carline. C'était une façon extrêmement claire et concise de présenter ce bilan Innocenti 13. Je rappelle, vous êtes directrice adjointe des politiques et programmes internationaux à UNICEF Canada. Eh bien, salutations du côté de Toronto.
Merci, merci Marianne.
C'est Maurice Bolduc à la mise en onde de l'émission Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis on se donne rendez-vous, nous, demain. 14 heures. Portez-vous bien.